À tous, vous allez bien? Je suis content de vous retrouver. Je vous ai vu pour certains la semaine dernière. Oula, il y a de l'écho. Vous allez m'entendre doublement. Après presque 4 semaines d'absence, on a été voir nos enfants au Mexique. Et ces bons moments. Et aussi des moments de repos, des moments paisibles où. Le Seigneur nous parle et puis donc il y a des choses que dont je vais vous parler qui sont venues à ce moment-là. Le Seigneur nous remplit, quelles que soient les circonstances. Et merci Seigneur parce qu'il nous a laissé sa parole et son esprit. Alors, c'est parti. J'ai pris donc un texte qui est donc Jérémie 10. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Et donc, dans ce verset, vous voyez que déjà, nous sommes en marche, mais nous ne pouvons pas diriger seuls nos pas. Et il y a donc une anecdote que nous avons vécue durant ce voyage. Nous devions, lorsque nous étions donc avec nos enfants, faire un week-end dans une région qui était bien hors de la ville. Et le soir, notre gendre prie. Et puis, il demande au Seigneur, dit, « Seigneur, si tu changes nos projets, mais que nous ne soyons pas attristés. » Et le lendemain soir, il revient. Et puis, il dit, « On ne peut pas aller là. » En fait, c'est une route désertique que nous devions emprunter à un moment donné. Et bon, vous savez qu'il y a un grand trafic de drogue, donc du Mexique à monter vers les États-Unis. Et donc, nous ne sommes pas très loin de la frontière des États-Unis. Et c'est une route où, si vous avez la plaque mexicaine, vous vous faites dépouiller. Si vous avez une plaque américaine, ils vous laissent passer. C'est un lieu tellement désertique qu'il n'y a pas de loi. Et on devait prendre cette route-là. Donc, et dans mon cœur, quand notre gendre avait prié, ça sonnait vraiment vrai. J'ai dit, Seigneur, Alléluia. Et me venait ce passage de Jacques. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et c'est vrai qu'en toutes circonstances, on peut avoir de multiples assurances. Et croire que tout va aller bien. Mais nous avons besoin de la grâce de Dieu autour de nous, parce qu'il voit bien au-delà de ce que nous voyons. Hello. Sur le côté. Bon. Donc il y a un petit délai. Donc on va lire ce passage de Jérémie 10 qui est tout à fait intéressant, où il y a un contexte particulier mais qui est toujours vrai aujourd'hui. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, communauté d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel: n'imitez pas la conduite des nations. Ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel, parce que les nations sont effrayées par eux. En effet, les coutumes des peuples sont vides de sens. C'est du bois qu'on coupe dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne bouge pas. Ces dieux ressemblent à un poteau massif, ils ne parlent pas, il faut bien qu'on les porte. Puisqu'ils ne peuvent pas marcher, n'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Personne n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand et ta puissance contribue à la grandeur de ta réputation. Qui pourrait ne pas craindre, te craindre, roi des nations? Oui, c'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, personne n'est semblable à toi. Tous, sans exception, sont idiots et stupides. l'instruction des idoles, ce n'est que du bois. On fait venir des lames d'argent de Tarsis et de l'or d'Uphas. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les travaillent. Les habits de ces dieux sont de pourpre violette et rouge. Tous sont l'œuvre d'habiles artisans. Mais c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Lui qui est un Dieu vivant et il est roi pour l'éternité. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur tiendrez ce langage. Les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre disparaîtront de la terre et de dessous le ciel. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a déployé le ciel par son intelligence. À sa voix, l'eau gronde dans le ciel, il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il déclenche les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Tout homme est dépassé, même les plus savants. Tout orfèvre est honteux de sa sculpture sacrée, car son idole n'est que mensonge. Le souffle de la vie n'habite pas dans les idoles. Elles sont sans consistance, ridicules. Quand ce sera le moment d'intervenir contre elles, elles disparaîtront. Celui qui est le bien de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout façonné. Israël est la tribu qui lui appartient. L'Éternel, le maître de l'univers, voilà quel est son nom. Ramasse tes affaires qui traînent par terre, toi qui te trouves en état de siège, car voici ce que dit l'Éternel. Cette fois, je vais expédier au loin les habitants du pays. Je vais provoquer leur détresse pour qu'on les capture. Malheur à moi, je suis brisé. Ma paix est douloureuse. Et moi qui disais, c'est une calamité. Je la supporterai. Ma tente est dévastée, tous mes cordages sont coupés. Mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus là. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes abris en toile. C'est que les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel, c'est pourquoi ils n'ont pas agi intelligemment. Voilà pourquoi tous leurs troupeaux sont dispersés. C'est le bruit d'une rumeur. Elle arrive, c'est un grand tremblement qui vient du pays du Nord pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repaire de chacal. Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Et la version Semeur dit « Je sais, ô Éternel, que le destin de l'homme n'est pas entre ses mains et que celui qui marche n'est pas maître de ses pas. Corrige-moi, Éternel, mais dans une juste mesure et non dans ta colère, sinon tu m'affaiblirais trop. Déverse ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, sur les peuples qui ne font pas appel à toi. En effet, il dévore Jacob, il le dévore, il l'extermine et dévaste son domaine. » Voilà ce texte qui donne une large part à ce qu'on appelle l'idolâtrie. Qui était connu à ce moment-là et qui est toujours vrai. Et le Seigneur nous appelle à ouvrir nos yeux, au-delà de ce qu'on connaît. Et comment le connaître? Et comment nos pas seront-ils éclairés? Parce qu'on va voir d'autres exemples, mais où des hommes de Dieu on puisse se tromper lourdement. Et ma prière, tous ces temps derniers ont été, Père, sanctifie-moi par ta vérité. Que je connaisse quelle est ta parole, à la fois pour moi, mais pour aussi ceux qui m'entourent et pour l'Église. Et c'est comme d'habitude, un message qui s'adresse à d'abord chacun d'entre vous, avant de s'adresser à votre voisin ou votre voisine. Et le Seigneur agit d'abord sur la personne en particulier, individuellement, avant qu'elle puisse faire quelque chose de façon collective ou communautaire. Et donc, l'exemple que j'ai de l'idolâtrie, c'est, je l'ai cité quelques fois, si vous trempez votre main dans une bassine d'huile, mais avec votre poing fermé, bien serré de toutes vos forces, vous verrez que c'est impossible de résister à l'huile qui va s'infiltrer. Et le bain de ce monde est comme cela. Donc nous avons besoin, pour nous garder de ce monde, d'être aux pieds de Jésus. Et mes forces ne suffiront pas, c'est certain. Et ma protection, elle vient de l'intérieur. Le Seigneur regarde au cœur. Vous savez, vous pouvez être influencé par diverses doctrines, par diverses choses qui sont dites. Et j'ai relu le message, la méditation que j'ai mis pour le mois d'octobre sur l'obéissance. Et puis je me suis dit, c'est peut-être pas aussi clair que ça. Puis je ne voudrais pas poser des conditions, parce que c'est vrai. Mais à la fois, je sais que nous avons pas, ce n'est pas des conditions A, B, C, et puis A plus B plus C qui vont changer quelque chose. Notre Seigneur est un Dieu de grâce. Et il regarde à notre cœur. Et bien souvent, avant même que j'aie obéi, il a déclenché sa main. Parce que je n'avais pas les forces, ou je n'avais pas compris tout simplement. Mais il regardait à mon cœur. Et le Seigneur regarde à vos cœurs avant tout. Même si vous êtes jeune chrétien, même si vous dites, mais moi, le Seigneur ne me parle pas. C'est à votre cœur qu'il regarde. Et le début de la sanctification, quotidienne, passe par l'action du Saint-Esprit. C'est d'abord le Saint-Esprit qui, dans le fond de votre cœur, va déposer une vérité. Il est l'Esprit de vérité. La sanctification, elle démarre par là. La puissance du changement, c'est la puissance de vie de l'Esprit Saint qui vient écrire une vérité dans nos cœurs. Et ce n'est pas à force de « je dois, il faut, et il y a qu'à », etc., qu'on change. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui, avec sa parole, atteste dans nos cœurs que c'est la vérité. Et que derrière, ça produit la repentance. Et cette repentance-là, elle nous engage dans un changement de vie qui est radical. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et ce n'est pas... Bien sûr, nous sommes utiles à prêcher la parole de Dieu, à encourager, etc. Mais ce qui change réellement, c'est votre cœur à cœur avec le Seigneur. Lui qui regarde au plus profond de votre cœur. Et je vous parlais de grands hommes qui nous ont précédés. Et je pense à David, qui à la fin de sa vie, j'ai relu ça dernièrement, je connaissais l'histoire, mais j'en revenais pas. À la fin de sa vie, David prend l'initiative personnelle de faire un recensement du pays. Et il n'y avait que Dieu qui pouvait déclencher le recensement de son peuple. Et David a cette idée, qu'est-ce qu'il a taquiné? Est-ce que c'est un relent d'orgueil? Je pense que oui. Et ceux qui étaient autour de lui, et il y avait Joab, qui n'était pas toujours fiable, mais David, il n'écoute pas. Et il lance le recensement. Et donc tout le pays à parcourir, à dénombrer les gens. Et ça dure 9 mois et 20 jours. Je me dis, en 9 mois et 20 jours, il y a du temps pour réfléchir. Eh bien, David, il va attendre le dernier jour, le relevé du recensement. Et il sait combien d'hommes, de femmes, etc. il y a dans le pays. Et là, le Seigneur le reprend. Vous connaissez cette histoire? Et je me dis, mais comment? Alors cet homme, on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Comment cet homme a pu faire ce genre de choses, quoi? Ne pas écouter ses collaborateurs, ses conseillers qui étaient autour de lui, quoi. Et que ça dure et que ça dure. Mais c'est notre fragilité aussi d'homme. Et nous n'avons pas à regarder aux hommes, mais à regarder à Dieu. Et donc, David y finit par dire « J'ai commis un grand péché en agissant de cette manière. Maintenant, Éternel, veuille pardonner la faute de ton serviteur. » Je crois qu'il y a un texte. « Veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. » Là, il comprend. Ses yeux s'ouvrent. Et donc, Yagad, donc, qui est le prophète qui est envoyé vers David, et puis qui propose trois fléaux de la part de Dieu concernant donc ce péché. Et David répond, « Je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. » Alléluia. Ses compassions sont grandes. Nous ne les connaissons pas. Inutile de poser des conditions. Nous ne connaissons pas les compassions de Dieu. Mais quand notre cœur se rapproche du sien, le Seigneur est tout proche de nous bénir, de nous ouvrir les yeux. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. Amen. Nous retrouvons l'homme selon le cœur de Dieu. Et donc, nous avons vu David 9 mois et 20 jours ne pas être repris. Mais les compassions de Dieu, elles n'ont pas duré aussi longtemps. Donc finalement, c'est la peste qui est envoyée sur le pays. Et lorsque la peste arrive aux portes de Jérusalem, Dieu envoie, enfin, reprend l'ange destructeur. Les compassions de Dieu, elles n'ont pas duré. La décision de Dieu n'a pas duré de cette façon-là. Il n'y a pas une once, un nanomètre, un nano, je ne sais quoi, de traces d'orgueil dans le cœur de Dieu. Il y en avait dans le cœur de David, mais dans le cœur de Dieu, il n'y a rien. Alléluia. Notre Seigneur est riche en compassion. C'est lui qui renouvelle nos forces. Chaque matin, notre esprit, notre âme, notre corps, il sait de quoi nous sommes faits. Et nous sommes fragiles, c'est vrai. Parce que si un homme comme David pouvait faire de telles choses, à plus forte raison, je pense que nous, on est très légers. Il nettoie notre égoïsme et notre orgueil. Il nettoie la honte, la culpabilité, la peur qui peut être aussi en nous. Alléluia. Si nous abandonnons notre cœur aux pieds du Seigneur, lui nous connaît. Et lui va nous conduire dans ses compassions merveilleuses et nous relever. Et vous savez que j'aime les images et il y a beaucoup de choses qui peuvent me parler. Et puis un après-midi qu'on était donc dans la ville où habitent nos enfants, il y avait la sortie du collège et il y avait une jeune fille qui avait sur... Donc elles sont en uniforme, c'est pas comme ici où chacun a ses propres habits, ses propres tendances, ses propres modes, etc. Là, c'est l'uniforme. Mais il y a toujours le petit caractère, la petite personnalité de chacun. Et il y avait une jeune fille qui avait sur son sac à dos « My favorite color is rainbow ». Je m'excuse pour... Bon, détendez-vous un petit peu. Je m'excuse pour l'accent. Mais bon, je sais au moins traduire. Ma couleur favorite est l'arc-en-ciel. Alors, je ne sais pas pour elle ce que ça voulait dire. Mais pour moi, mes yeux étaient sur le Seigneur qui nous a donné cette marque, cette attestation qu'il était avec nous, cette attestation de sa présence. Et que ma place favorite est auprès du Seigneur. Et donc, forcément, ça m'a fait sourire un petit peu, mais ça m'a parlé, quoi. Et je me suis dit, oui, Seigneur, sur ta palette, il y a toutes les couleurs. Il y a toutes les couleurs qu'il faut pour corriger ce que je suis, pour blanchir mes noircissures, mes noircisseurs. Ah, ben vous écoutez. Et donc, ça, c'est vrai que je me suis dit, c'est vraiment bon, Seigneur, comment tu nous parles. Mais c'est vrai que tu as toutes les couleurs pour nous redonner la vie, pour nous transformer. Alors, demeurez en moi. J'avais parlé sur Jean 15. Et forcément, il y a aussi, je ne sais plus si j'avais insisté sur ce demeurer. Et demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. On ne peut plus clair. J'attendais un amen. Oh, vous êtes timide. On ne peut rien faire si on ne demeure pas en lui. Qu'est-ce qu'on peut faire sans Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire sans Jésus? Mais rien. On va voir notre vie passer. Il y a un tas de regrets à la fin de notre vie. Le temps est venu de demeurer en Dieu, fermement, de rechercher sa présence, de rechercher sa couleur, de rechercher à ce qu'il corrige, qu'il rectifie, qu'il enlève la couleur qui n'est pas bonne. Alors, je ne me suis pas amusé à compter tous les heureux qu'il y a dans la Bible, mais il y en a un bon nombre. Il y a déjà dans les béatitudes qui peuvent nous parler. Alors là, ce serait le sujet d'un grand séminaire. Donc dans Matthieu 5, mais il y a aussi dans tous les psaumes. Et alors dans les psaumes, il y aurait 32 fois heureux. Le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas. Tiens, il ne marche pas. Selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Toute la parole se tient. Dans le psaume 32, verset 1, donc de David, « Heureux celui dont la transgression est enlevée, oh Alléluia, dont le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Alléluia. C'est bien mis « heureux ». 33:11, « Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours. » Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Oh, amen. Le Seigneur nous parle de bonheur, mais d'un autre bonheur peut-être que celui dont nous entendons parler. Et à nouveau, et donc là, c'est le côté plus pratique, on va dire, dans Jean 13, 17, si vous savez cela, si vous savez cela, qu'est-ce qu'on va en faire? Vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Dans Jacques 1, 22 à 25, je ne vous lis pas tout, mais pratiquez la parole, ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Dans son action même. Il est bien parlé aussi de marche quelque part. Amen. Le conseil de Dieu, il est pour celui qui marche. Hop. Donc la définition du bonheur, je pense que si on vous demandait de rédiger quelque chose, les uns les autres, on aurait beaucoup de divergences. Et c'est vrai que l'ennemi, le prince de ce monde, a mis dans la tête des humains que leur bonheur dépendait de ce qu'ils n'ont pas encore. Toujours en quête de quelque chose qui pourrait faire leur bonheur. Quelle tromperie, quel mensonge. Alors une maison magnifique, une belle voiture. Moi je rêve d'une Tesla. Pas vous ? Bon. C'est un rêve, hein. C'est... Et puis, je sais pas, un corps de rêve, en pleine santé, en forme et tout ça. Mais bon, ben voilà, je suis bien obligé de constater que les années passant, merci Seigneur, je suis en bonne santé, mais tout de même. Et puis après, une épouse parfaite. Ah, alléluia. Merci Seigneur pour l'épouse que tu m'as donnée. Mais je sais qu'elle n'est pas parfaite. Et puis elle sait que je ne suis pas un époux parfait non plus. Et puis des enfants. Ah ben oui, des enfants parfaits aussi, tant qu'à faire. Mais vu que les parents n'étaient pas parfaits, voilà, bon. Et puis alors, un travail bien comme il faut. Non, plus de travail, plus de travail. Et puis plus de patron, hein. Là, oui, enfin bon. Alors tout ça ça tourne dans nos têtes, quoi. C'est, on pense que le bonheur dépend des autres, quoi. Et il y a forcément quelque chose qu'on n'a pas compris, quoi. Et ce qu'on voit, ce qui est le plus touchant, c'est surtout dans les couples. Et on est souvent piloté, influencé par un mensonge. Et nous sommes convaincus que ce bonheur auquel on a droit, notre épouse ou notre mari, ils doivent répondre à tous les critères que nous, on a du bonheur. Et pour qu'on soit heureux, mais si ça ne marche pas, on les accuse, jour après jour, et de plus en plus. Et la relation est détruite. La relation est détruite. Et tout ça sur la base d'un mensonge. Et donc, par rapport à ça, revenons à ce que Dieu veut pour nous. Et chaque homme et chaque femme devrait déjà être complet en lui-même de par sa relation avec le Seigneur. Complet en lui-même, dans son bonheur, avec sa relation avec le Seigneur. Et notre handicap d'amour et d'émotion sont réparés et complétés par le Christ. Il n'y a que lui qui peut réparer ces choses-là. Ce n'est pas des compensations de notre mari, de notre épouse, de nos enfants qui vont faire qu'on ait le bonheur. C'est le Seigneur, oui, toujours avec sa palette, qui reprend les choses et qui corrige. Si notre bonheur dépend des personnes et des bonnes circonstances, il nous manquera toujours quelque chose. Ce quelque chose est spirituel. Il est spirituel, ce quelque chose qui nous manque. C'est notre premier besoin. L'esprit que Dieu a créé en nous attend d'être connecté à l'esprit de Dieu. Voilà ce qu'il attend. Voilà le soupir de notre esprit. Et si nous ne le comprenons pas, nous disons, c'est ta faute. Je voulais ça, t'as pas fait ça. T'as... Bon, c'est le désordre. Et le Seigneur, ce qu'il désire, c'est notre unité avec lui, notre communion. Et bien sûr, c'est sûr que si le besoin est spirituel, la personne la plus précieuse à côté de moi ne pourra pas remplir. Elle pourra m'aider, mais ne pourra pas remplir mon cœur. Donc choisissez comme David le Dieu dont les compassions sont immenses, quelle que soit la situation. Je vous dis bien, quelle que soit la situation, ne vous laissez pas décourager. C'est vrai qu'on peut poser des conditions quelquefois. Peut-être je vous en ai posé, je vous en demande pardon si ça a été le cas. Parce que ce que le Seigneur cherche, c'est bien notre cœur, l'intimité de notre cœur, la disposition de notre cœur. C'est à cela qu'il regarde. Ce n'est pas à la belle prière, bien ficelée, petit A, petit B. Et vous connaîtrez sa fidélité, même lorsque vous êtes infidèle. Son conseil et son aide indéfectible à marcher dans la sainteté. Il vous révélera, comme je vous ai dit au début, il vous révélera les choses pour vous donner la force de mettre votre vie comme lui le veut. Et cette séparation s'affirme au quotidien. Lorsque notre esprit soupire, écoutez votre esprit qui soupire en vous. C'est tout doux, c'est tout simple. Alors vous pouvez dire, oui, mais il est trop tard. Je vais avoir 5 minutes de retard au travail, ou j'ai les enfants à préparer, ou ceci, cela. Tout ce temps, et jour après jour, ne fait que vous épuiser. Parce que vos forces ne sont pas de cœur à cœur, d'esprit à esprit avec le Seigneur. J'ai envie de tourner cette zapette, mais non, c'est pas ça. Et donc nous allons avoir une semaine de jeûne et prière, donc la semaine qui vient. Et c'est vrai que mon message était un petit peu préparé aussi pour vous préparer à ce temps. Et à travers ce qu'on a vu, enfin, tout l'environnement d'idolâtrie qui ne change pas, hein, enfin, on ne va pas dire que les choses se sont améliorées, il y a un tas de séductions et de séductions qui peuvent nous faire croire que c'est là qu'on trouverait le bonheur, mais ce n'est pas là, vous l'avez compris. Et toute l'aide que le Saint-Esprit souhaite nous donner, et lui aussi, il a ce désir, Dieu a ce désir de venir en relation avec nous. Et donc à travers ce verset, qui je vous le relis dans Semeur, « Je sais, ô Éternel, que le destin de l'homme n'est pas entre ses mains. » Est-ce que vous savez que votre destin n'est pas entre vos mains? Je ne connaissais pas les jours de ma naissance, j'ai connu qu'après. Et je ne connais pas le jour où je m'en irai vers le Seigneur. Donc je ne connais pas mon destin et j'ai besoin d'être éclairé par le Seigneur et que celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. Et vous savez que dans notre Père, nous disons que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et nous pouvons dire aussi, nous ne nous appartenons plus. Nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons au Seigneur. Notre vie, normalement, c'est plus nous qui sommes au volant. C'est lui. Je vous laisse réfléchir à ça. Et donc, Tite, dans le chapitre 2, au verset 11 à 14, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les œuvres bonnes. Amen. Abandonnons-nous entre les mains de Dieu, entre les mains du Seigneur. Et pour finir, j'avais cette image d'être dans un bateau et où il y a beaucoup de rameurs, mais les conditions sont un petit peu agitées. Mais je suis sûr qu'ils se sont décidés avant de partir, nous voulons aller là. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on est tous d'accord ensemble? Il y en a qui seront à droite, d'autres à gauche. Peut-être qu'au cours de des remous, ça peut changer. Mais en tout cas, la direction est bien claire. Et chacun compte sur l'autre. Et tous se sont engagés dans une solidarité pour aller jusqu'au bout. Et ce que nous dit cette parole, c'est que à la fois, il y a une œuvre individuelle dans nos cœurs, purifiée par lui, zélée pour les œuvres bonnes, puisque nous appartenons au Seigneur. Le travail se fait individuellement pour qu'ensuite, nous puissions œuvrer collectivement. Il y a ces deux dimensions à vivre. Et dans ce temps de jeûne de prière, cette semaine qui vient, il y a un temps personnel. Donc tout ne repose pas sur les autres. Et du temps personnel qui va avec le temps communautaire. Et le Seigneur relève les uns et les autres. Il répare ce qui t'a réparé individuellement pour que tous dans le même bateau, nous ayons les forces d'aller jusqu'au bout. Et donc, il ne faut jamais oublier qu'il y a ce que Dieu fait individuellement dans notre cœur. Donc individuellement, c'est notre culte personnel. Et collectivement, où nous sommes ensemble, où nous décidons des choses. Et l'œuvre du Seigneur se fait individuellement, puis collectivement. Et gloire à Dieu dans sa fidélité, parce qu'il œuvre de cette manière. Amen. Donc nous allons prier pour que le Seigneur vous rappelle ce que lui désire vous rappeler, qu'il vous conduise dans sa sainteté. Lui, c'est parfaitement toute votre vie, là où vous en êtes, les difficultés, les mensonges qui peuvent être installés. Il connaît toutes ces choses. Il veut que nous venions à ses pieds, tout simplement. Amen, Seigneur. Ô Seigneur, merci pour ta grâce immense, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Parce que tu nous as touchés, Seigneur. Tu as touché notre cœur pour que nous t'appartenions, Seigneur. Et Seigneur, nous ne voulons plus regarder en arrière, Seigneur. Maintenant, nous t'appartenons, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous savons que le bonheur est en toi. Maintenant, Seigneur, nous savons que c'est toi qui gardes notre destinée. Seigneur, nous savons où est la bonne place. Ô Seigneur, donne les forces. Donne, Seigneur, dans ta bonté, dans ta bienveillance qui se renouvelle chaque jour. Ah oui, Seigneur, donne à chacun. Oui, Seigneur, le vouloir et le faire. Ce qui vient de toi, pas ce qui vient de l'influence d'un homme, mais ce qui vient de toi, Seigneur. Nous voulons que nos cœurs soient saisis par toi, Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais, Seigneur. Ta fidélité, Seigneur, elle est infinie, Seigneur. Et tu relèves celui qui est le genou par terre, peut-être les deux genoux en sang. Tu le relèves, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour tes yeux, Seigneur, qui nous regardent, Seigneur. Là où personne n'a vu, Seigneur, toi tu as vu, Seigneur. Ô Seigneur, donne la force à chacun et chacune, Seigneur. Merci de bénir ton assemblée, Seigneur. De renouveler ses forces, de renouveler, Seigneur, l'onction, la direction que tu veux pour cette Église, Seigneur. Amen, au nom de Jésus-Christ. Amen.